Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour...
Culture prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Sommaire aujourd'hui, une émission consacrée à l'apocalypse, alors à l'apocalypse au cinéma, mais on va dire plus largement même dans la culture populaire. Hein. Émission durant laquelle nous aborderons le livre Somme sur le sujet, signé de l'illustre Jean-Pierre Andrebon, Récit de l'apocalypse, qui est paru aux éditions Vendémiaire. Jean-Pierre Andrebon, que nous avons eu l'immense honneur de rencontrer, rencontre que vous allez pouvoir écouter dans la première partie de l'émission. L'apocalypse étant un thème récurrent dans l'histoire du cinéma, nous avons sélectionné quelques œuvres, dont deux récemment parues chez deux de nos éditeurs préférés. Apocalypse 2024, un film de 1975 réalisé par L.Q. Jones, sorti chez Artus Film, et Hiroshima d'Hideo Sekigawa, classique de 1953, paru chez Carlotta Film. L'équipe de Culture Prohibée remercie Mathilde Gibaud, Slavka Mikluzova, Kevin Boissezon et Thierry Lopez pour leur aide sur cette émission. Pour causer fin du monde, je suis aujourd'hui accompagné du toujours très pessimiste Thomas Roland, dit le loup-garou Picard qui, chaque nuit de pleine lune, enregistre à l'écoute du cinéma diffusé sur RCA. Salut Thomas.
Salut GG, salut à toutes. Et effectivement, la perspective d'une fin du monde me dire que je dois manger moins de viande et donc de chair fraîche, ça m'enchante guère. Hein.
Cette émission est réalisée en partenariat avec Prime Cut, nouvelle revue de cinéma éditée par The Ecstasy of Film, qui s'est fixée pour objectif de défendre les cinéastes mal aimés. Sa campagne de financement participatif bat actuellement son plein sur Kiss Kiss Bang Bang. Afin de vous encourager à soutenir ce nouveau MOOC, nous vous invitons lors de chaque épisode de Culture Prohibée à rencontrer un des membres de son équipe. Cette semaine, c'est Grégory Lay qui s'y colle. Grégory Lay, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs ?
Salutations, moi c'est Grégory Lay, je suis illustrateur graphiste.
Je fais un peu de tout, de l'affiche, du storyboard, du concept design, et je m'occupe sur PrimeCut de la mise en page du MOOC et de l'illustration de couverture qui représente donc Michael Winner et les principaux personnages, les personnages iconiques de certains de ses films. Lee Marvin, Gene Hackman, together their murder
in PrimeCut. Mon cher Thomas, avant de débattre sur des films qui traitent du sujet de l'apocalypse, nous allons écouter Jean-Pierre Andrevon. Alors Jean-Pierre Andrevon, bah, vous le connaissez, c'est un immense auteur de SF français, hein, très très prolifique. Mais il est aussi critique de cinéma, entre autres parce qu'il sait faire plein de choses, hein, Jean-Pierre Andrevon. Bah, là, on va surtout parler de ces deux choses-là, dans les domaines qu'il maîtrise, et en particulier de son dernier livre sur le cinéma, qui est « Récit de l'apocalypse », qui est sous-titré « Catastrophe, cataclysme et fin du monde » dans la littérature et au cinéma, et qui est donc paru aux éditions Vendémiaire. Alors c'est presque 400 pages qui compilent tout ce qui a trait à la fin du monde. Voilà, dit comme ça, ça fait très envie. Donc le plus simple pour parler de ce livre, hein, qui débute avec la Bible, hein, quand même, hein, donc on remonte vraiment très très loin en matière d'illustration de l'Apocalypse, nous allons tout de suite appeler Jean-Pierre Andrevon. Donc Jean-Pierre Andrevon va être en ligne avec nous, Jean-Pierre Andrevon au micro de Culture Prohibée. Bonjour Jean-Pierre Andrevon.
Bonjour.
Alors vous êtes aujourd'hui en notre compagnie pour aborder l'ouvrage « Récit de l'Apocalypse, catastrophe, cataclysme et fin du monde dans la littérature et au cinéma » qui est paru aux éditions Vendémiaire.
Voilà.
Et vous abordez donc l'Apocalypse sous toutes ses formes, hein, dont entre autres la littérature, le cinéma, je dis bien entre autres, hein, parce qu'on s'aventure sur beaucoup de terrains. Et vous semblez passionné par le sujet, hein, parce qu'on peut citer, par exemple, vos ouvrages, « Faudra bien se résoudre à mourir seul », un recueil de nouvelles dans un contexte apocalyptique ou post-apocalyptique, « Le monde enfin », qui était paru au Fleuve Noir, qui va paraître en édition augmentée chez Helios. Est-ce que cet intérêt pour l'Apocalypse vient de votre vécu, je pense à votre jeunesse sous l'occupation, votre mobilisation en Algérie, vous avez connu quand même des périodes très dures.
Bah, j'ai connu des périodes très dures comme beaucoup, hein, je suis pas un spécialiste de ça, mais ça vient surtout de mon engagement social, sociologique et surtout écologique. Je suis tombé dans l'écologie comme Obélix dans le chaudron, là bien sûr, assez jeune, vers ma 20e, 25e année, en lisant les ouvrages emblématiques du genre, hein, par exemple Le printemps silencieux de Rachel Carson, et puis je me suis dit que ça va pas, quoi, le monde court à sa perte, on va droit dans le mur ou on tombe dans le gouffre, comme on voudra. Donc j'ai toujours été préoccupé par la possible fin ou en tout cas la possible dégradation de l'espèce humaine ou en tout cas de la civilisation. Et donc comme j'ai commencé à écrire de la science-fiction qui était le genre effectivement qui me passionnait, ben fatalement je me suis beaucoup axé dans ces directions, quoi, sur les cataclysmes, les catastrophes, la fin du monde. Effectivement, vous avez cité quelques titres dont Le Monde enfin, qui effectivement décrit une pandémie qui annihile la totalité de l'humanité, puisqu'il reste que 6 survivants à la fin du livre. Je dévoile ça comme un spoiler. Donc voilà, ça m'a toujours à la fois intéressé, mais inquiété aussi, quoi. Et je crois que la science-fiction est faite pour lancer ce genre de message, si message il y a. Attention où on va, quoi, parce que la science-fiction, qu'est-ce qu'elle veut dire, ou quel est son but en tout cas, bah, c'est d'essayer de décrire notre futur à 10 ans, à 50 ans, à 100 ans, à 5000 ans. Et quand on se rend compte que notre futur n'est pas rose, il est plutôt gris, voire noir, ben voilà, quoi, on est inquiet, on écrit là-dessus. Voilà, je vous ai raconté en gros ma vie et ma carrière, très brièvement.
Vous choisissez d'ouvrir votre ouvrage par le livre des livres, la Bible. Jésus, Mad Max, même combat.
Ben, c'est-à-dire la Bible est fertile en cataclysme et catastrophe, hein. Le principal est dans le déluge, effectivement. Il y a aussi la destruction de Sodome et Gomorre par des météorites envoyées par Dieu, enfin, ou quelqu'un du genre. Donc la Bible a été fertile en, en catastrophes diverses. Mais pourquoi ? Parce que dès le début de la pensée humaine, les gens, à quelque époque qu'ils vivaient, ont été soumis à diverses catastrophes, hein, que ce soit des inondations, que ce soit la sécheresse, que ce soit la famine, que ce soit des éruptions de volcans, des tremblements de terre, les guerres bien sûr, en somme les quatre cavaliers de l'Apocalypse. Donc on a tout le temps vécu dans l'approche ou dans la hantise de diverses catastrophes, bien sûr. On n'a rien inventé, quoi.
C'est aussi révélateur que, depuis la nuit des temps, en fait, pour reprendre Barjavel, hein, mais l'homme s'est toujours nourri, en fait, de récits d'apocalypse.
Je crois que la science-fiction n'est pas un genre optimiste, hein, par nature même. Comme je le disais déjà, la science-fiction essaye de deviner quel pourrait être, non pas le futur, mais des futurs. Et plus on va dans le temps, plus on se rend compte que les futurs ne sont pas roses, quoi. Je veux dire, le grand tournant, si on peut dire, malgré tout, suite à une science-fiction plutôt optimiste, effectivement, des années 20-30, ça a été la Seconde Guerre mondiale, quand on a découvert et la Shoah, et Hiroshima et Nagasaki, quoi. On a dit, oh là là, mais où on va comme ça ? Et puis après, ça a commencé dans les années 50, début des années 60, la conscience des périls écologiques, hein, l'effet de serre, etc., la perte de la biodiversité, toutes choses qui se sont accélérées et qui nous menacent aujourd'hui très très directement. Alors quand on essaye de deviner quel peut être le futur, c'est plus le futur qu'on espérait dans les années 30 ou 40, c'est un futur bien bien noir, quoi, où il faut se bagarrer pour essayer de survivre.
Oui, d'ailleurs, votre livre sort à une époque, malheureusement, avec le Covid, et puis, on vit une époque où la fiction, j'ai envie de dire, rejoint la réalité, mais ce qui était prévisible, puisque beaucoup de scientifiques, beaucoup de personnes s'étaient érigées en lanceurs d'alerte. Vous revenez d'ailleurs sur les prophètes annonciateurs de fin du monde, leurs illustrations fictionnelles, et en particulier au cinéma, mais quel regard portez-vous aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, sur celles et ceux qui crient aux faux prophètes, par exemple, devant les discours alarmistes et justifiés, hein, de nombreux scientifiques qui nous préviennent depuis de nombreuses années? On a l'impression que la fuite en avant continue quand même.
Ben oui, mais ça, je comprends pas. Je veux dire, à la fois, je m'insurge et à la fois, je m'interroge, parce que, je veux dire, nier, par exemple, les changements climatiques, alors que les chiffres sont là, alors qu'il n'y a qu'à voir, regardant les photos de glaciers, hein, en 1900, 1950, en 2000, les glaciers fondent à toute allure. Bon, c'est un exemple parmi d'autres, mais je veux dire, nier ça, c'est à peu près du même niveau que ceux qui croient encore que la Terre est plate, quoi. Je veux dire, je comprends pas. Je comprends pas ce déni, à moins que le déni ne dénote une peur devant cet avenir très proche, hein, contre lequel on peut rien, ou en tout cas pas grand-chose. Alors quand il y a quelque chose qui vous menace, une des réactions possibles, c'est de dire « Ah ben non, c'est pas vrai ». Je pense qu'il y a de ça aussi, oui.
Vous rappelez aussi dans le livre que la femme qui a écrit le premier ouvrage de science-fiction, Frankenstein, c'est Mary Shelley.
Oui, ça c'est ouvrage emblématique, oui, tout à fait.
Et écrit en 1826, je le rappelle, et le premier livre sur une pandémie, Le Dernier des Hommes. Vous remettez les pendules à l'heure, en fait, concernant cet auteur.
Tout à fait, oui, parce que pour moi, je veux dire, la mère de la science-fiction, c'est pas Jules Verne, c'est vraiment Mary Shelley. Alors je suis très heureux que ce soit une femme, déjà, et bien avant, presque au moins une bonne cinquantaine d'années avant Jules Verne. Et là, elle a écrit deux ouvrages majeurs et emblématiques de ce futur qu'on présentait, quoi, qu'on pressentait, la création d'une créature artificielle, hein, qui embrayera plus tard sur l'intelligence artificielle, sur les robots, etc. Et puis le grand cataclysme qui annihile presque toute l'humanité, puisqu'en fait, il n'y a plus qu'un seul survivant à la fin du dernier homme. Mais ça, je crois qu'on n'invente jamais rien, en fait, hein. Des épidémies mortelles, il y en a eu des tas, hein. Évidemment, Mary Shelley n'a pas connu la grippe espagnole, hein, qui a fait 50 millions de morts en 1918-1919, il faut quand même s'en rappeler. Mais il y a eu la grande, grande peste du Moyen-Âge, à la fin du XIVe siècle, qui a anéanti entre un tiers et la moitié des habitants de l'Europe. Alors si on faisait le lien avec aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il y avait la moitié des habitants de l'Europe qui mouraient en un an ou deux ans, qu'est-ce que ça serait, quoi. Je veux dire, donc il y a toutes les catastrophes, on a toujours vécu avec, Les écrivains, enfin ceux en tout cas qui veulent avoir une vision un peu aiguë de l'histoire, bah, ils peuvent pas y échapper, quoi, voilà.
Et on l'a un peu oublié aujourd'hui, mais pendant une longue période, et pas si lointaine, hein, la crainte de la guerre atomique a été très prégnante. Vous y revenez dans deux chapitres, hein, qui s'appellent... J'aime beaucoup les titres de certains de vos chapitres, quand même. Le joli temps des guerres atomiques.
Et
il arrive que ça saute.
Voilà, c'est... Exactement. Je veux dire, le péril atomique a été très, très présent dans les esprits, non pas seulement des auteurs de science-fiction, mais des gens en général, avec la guerre froide, hein, entre la fin des années 40 et la fin des années 80, avec la chute du mur et tout ça, la glasnost. Et puis l'énergie atomique guerrière, bien sûr, et l'énergie atomique civile, qui est aussi une de mes bêtes noires, que je suis un farouche anti-atomique, anti-nucléaire. Et puis il n'y a qu'à voir Tchernobyl et Fukushima, je veux dire, on n'a rien inventé, hein, je veux dire, ça arrive, quoi. Alors est-ce que la fiction précède la réalité ou la réalité déborde sur la fiction? C'est un espèce de cheminement comme ça, didactique, c'est un peu l'œuf et la poule, quoi, hein, mais bon... Tout ce qu'on a prévu arrive, et puis ce que parfois on n'a pas prévu arrive quand même. Quoi, voilà. Je crois qu'on peut dire ça.
Ce qui n'est pas vraiment rassurant en même temps.
Non, mais je crois qu'il ne faut pas être rassuré. Si on veut sauver notre peau, parce que c'est vraiment ça, sauver notre peau, il faut en être convaincu, et il faut se battre, et il faut, bon, hein, je veux dire, ça va de fermer le robinet quand on se brosse les dents, jusqu'à manger moins de viande, ou plus en manger du tout, et plus prendre sa bagnole n'importe comment, plus prendre l'avion. Je veux dire, voilà, il faut changer notre méthode, notre mode de vie, qui est destructeur de l'environnement. Alors bon, on peut dire ça comme ça au téléphone, et puis dès qu'on a raccroché, on prend quand même sa bagnole. Je veux dire, c'est très compliqué, c'est très complexe, et comme c'est complexe, la solution l'est aussi, quoi, à supposer qu'il y ait une solution.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant leur repas, la tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Quand on devant ce résultat ne se dégonfla pas et joua les andouilles, au tribunal on l'a traîné et devant les jurés le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu quand mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant les luttes immédiatement, chef du gouvernement.
Vous écoutez Jean-Pierre Andrebon, auteur de Récits de l'Apocalypse, paru aux éditions Vendémiaire, au micro de Culture Prohibée. On était sur la guerre atomique. Quel film, selon vous, film ou fiction d'ailleurs, hein, ou livre, a le mieux abordé le sujet, parce que c'est un sujet qui a été beaucoup, beaucoup traité quand même.
Oui, oui, il a été beaucoup traité là, dès la fin des années 40. Hein, je crois que je ne sais plus quel est le premier film. Enfin, le film emblématique de ça, c'est quand même le Docteur Folamour de Stanley Kubrick, quoi, d'une part, parce que Stanley Kubrick, c'est un très, très, très grand réalisateur. Et là, il a bien cerné ce qui pouvait arriver, quoi, dans ce qui peut, la guerre atomique, même si quelqu'un la déclenche pas volontairement, par accident, eh ben, elle peut arriver quand même. Et c'est exactement le sujet du film, quoi. Il suffit qu'un avion franchisse la ligne rouge, comme ça, et puis ça déclenche tout, et voilà, puis les bombes explosent, etc. Donc c'est un film qui est à la fois drôle, très inquiétant, très bien fait, ludique aussi, il faut bien le dire, hein. Donc c'est pour moi le très très grand film sur le sujet. Bon, il y en a eu d'autres, évidemment, dont j'ai peut-être pas les titres comme ça en mémoire. Le Dernier Rivage, quand même, par exemple, hein, après le roman de Neville Shutt, où il y a le dernier sous-marin comme ça de la marine américaine, je crois, qui parcourt le monde en essayant de trouver des survivants dans un port qui aurait été épargné. Enfin, la manière de traiter est très différente, même si le fond de l'histoire est la même, quoi. Ça fait boum, et puis voilà, puis il n'y a plus personne. Bon. Mais alors, c'est un sujet, effectivement, qui a été un peu, qui est passé un peu derrière nous, quand même, remplacé par, effectivement, les sujets écologiques, hein, l'effet de serre, la perte de la biodiversité, voilà, ce genre de catastrophe, certes plus lente, mais qui nous menace pareillement.
Et dans votre livre, donc Récit de l'Apocalypse, vous parlez évidemment, bon, beaucoup de cinéma, de littérature, comme on l'a dit depuis le début de l'interview, mais aussi de BD. Et vous revenez longuement sur Katsuhiro Otomo, hein, l'auteur de Akira, Mother Sarah. Les Japonais, du fait de leur histoire, est-ce qu'ils ne sont pas parmi les meilleurs conteurs en fait de l'Apocalypse ?
Ben, c'est-à-dire, il y a beaucoup de films japonais, effectivement, sur le sujet. Paradoxalement, il y en a quand même très peu qui traitent de la guerre atomique en tant que telle, quoi. Il y a évidemment les Godzilla, hein, depuis le premier, en 1954, puisque Godzilla, c'est un espèce de monstre radioactif, hein, dont l'existence tient au bombardement et à la radioactivité de la mer, qui a créé des espèces comme ça dangereuses. Mais je pourrais pas citer un film japonais vraiment sur la guerre atomique de manière traité de manière aussi réaliste que le Docteur Folamour, par exemple. Mais ils ont beaucoup traité de l'épidémie, hein, bien sûr, par exemple. Pourquoi j'en sais rien. Il y a un film, je crois, qui s'appelle Contagion, à moins que ce soit le Soderbergh, je ne sais plus. Mais enfin, il y a plusieurs films japonais ou asiatiques, effectivement, qui traitent de la pandémie. Oui. Et puis, il y a aussi La Subversion du Japon. D'ailleurs, c'est le titre d'un des films qui existe, que je dois citer aussi, parce que le Japon est soumis à de périodiques tsunamis et tremblements de terre. Et on se demande si un jour toute l'archipel ne peut pas sombrer dans la fosse océanique. Donc c'est vrai que c'est un pays qui a été soumis ou qui est encore soumis à diverses catastrophes possibles, quoi, bien sûr.
Ouais, il y a eu Virus de Kinji Fukasaku.
Il y a eu Virus, voilà. Oui, exactement. Et... je ne retrouvais pas le titre.
Voilà, tout à fait, oui. Je pense que c'est de celui-là dont on parlait. Ce livre est foisonnant. Il fait presque 400 pages. On navigue sans cesse entre littérature, cinéma, philosophie, politique, bande dessinée, tout en restant tout cela reste très fluide, très agréable à lire. Combien de temps vous avez mis à écrire cet ouvrage qui va faire référence forcément là sur le sujet, et combien de temps ça vous a pris, parce que ça paraît être une somme de travail gigantesque?
Non, ça m'a pas pris longtemps. Paradoxalement, j'ai commencé à l'écrire, enfin à le rédiger vraiment au tout début de la pandémie. C'est certainement en janvier février 2020, mais il se trouve que, bon, moi j'ai baigné dans la science-fiction toute ma vie, si je peux dire, hein, depuis mon adolescence. J'ai commencé à écrire très vite, au cours de ma, et publié assez vite aussi, vers 20-25 ans. Donc j'ai accumulé un nombre considérable de références, parce que non seulement j'écrivais, mais je lisais, hein. Quand on écrit de la science-fiction, c'est parce qu'on en a lu beaucoup. Je suis un grand cinéphile, j'allais voir tous les films. Il se trouve que je fais de la critique, hein, littéraire et cinématographique, donc j'ai gardé tout ça, et il me suffisait de piocher dans mes 50, voire 60 ans de longue vie pour retrouver ce que j'ai écrit sur tel bouquin, sur tel BD. Sur tel film, donc j'ai surtout fait une espèce d'exhumation de tout ce que j'avais écrit, puis j'ai rédigé différemment, puis j'ai assemblé ça différemment, et ça a fait un bouquin. J'ai fait exactement la même chose pour mon bouquin sur le cinéma de science-fiction, hein, qui est paru en 2013, ou sur mon bouquin sur la guerre au cinéma. Je veux dire, tout ça, je l'avais en mémoire, pas en mémoire dans ma tête, mais en mémoire soit dans mon ordinateur, soit pour les choses plus anciennes, dans les articles publiés dans telle ou telle revue, tel ou tel magazine. Donc j'ai un bagage, si on peut dire, tout à fait considérable qui remonte à mon plus jeune âge. Donc c'est pour ça que j'arrive facilement, entre guillemets, mais facilement quand même, à réunir tout ce bagage et à en faire des bouquins, quoi. Voilà, c'est pas tombé du ciel comme ça un jour, quoi.
Je rappelle, hein, puisque vous l'abordiez à l'instant, que vous êtes critique de cinéma, entre autres dans l'écran fantastique, et qu'on a pu lire récemment un gros travail sur le cinéma fantastique français, qui est publié dans des hors-séries, écran fantastique, hors-séries,
oui,
vintage.
Oui, c'est une revue à laquelle j'ai participé depuis ses tout débuts, hein, en 73. Avant, il y avait même un fanzine, le tout dirigé d'une main de fer par Alain Shlokov. Je suis très content de travailler et de continuer à travailler dans cette revue, qui est sûrement la meilleure revue sur le cinéma fantastique en France, une des meilleures au monde, quoi. Oui, tout à fait. Et donc, ben voilà, donc quand on passe sa vie à écrire, ben ça disparaît pas, quoi. Les paroles s'envolent et les écrits restent, comme on dit. Donc j'ai un bagage considérable d'écrits. Il suffit que je cherche, que j'exhume, et puis que je retravaille d'une façon ou d'une autre pour faire mes 4 ou 5 bouquins que j'ai fait depuis quelques années sur l'apocalypse, sur la guerre, sur le cinéma, etc., quoi. Et sur Tarzan aussi, l'avant-dernier, c'était sur Tarzan, qui était un autre sujet, mais qui m'intéressait bien aussi.
Et ouvrage que vous avez dirigé, qu'on avait abordé d'ailleurs, il y avait plusieurs auteurs, hein, on l'avait abordé également dans Culture Prohibée, c'est un ouvrage que j'avais bien apprécié aussi.
Oui, ben ça je l'avais fait avec... je suis fidèle à mes amis et collaborateurs de l'écran fantastique, donc quand je ne suis pas capable ou quand je ne me sens pas capable d'écrire tout seul, je demande à des gens comme Jean-Pierre Fontana notamment, qui est mon principal collaborateur et qui écrit aussi dans l'écran, de me donner un coup de main, oui, bien sûr.
Pour reprendre des éléments abordés dans la conclusion de votre ouvrage, est-ce que face à l'apocalypse, vous, votre positionnement, c'est quoi ? Est-ce le déni, la peur ou la préparation, alors ?
Le déni, certainement pas. La peur, non, je veux dire, il faut bien mourir un jour, hein, qu'on meure de maladie ou qu'on reçoive un météore sur la tête. On sait bien qu'on va y passer. Préparation, qu'est-ce que je peux dire ? Je fais comme beaucoup de gens, quoi. J'essaie de vivre de manière la plus saine et la plus économique possible, ce que tout le monde devrait faire, hein. J'ai pas de bagnole, je suis végétarien, je prendrai plus jamais l'avion. Ça paraît comme ça sévère, mais je vis très bien comme ça, hein. Je veux dire, donc, voilà, quoi. Je suis à la fois conscient et en même temps, j'essaye de faire les petits pas, cher à Hulot, même si je sais bien que ça suffit pas, mais néanmoins, il faut les faire, quoi. C'est l'histoire du colibri de Rabi, hein. Je sais pas si vous connaissez, mais je suis fidèle à cette philosophie de vie, quoi. Mais il n'y a pas de crainte ni de peur. Je veux dire, on a vécu, tous les gens qui ont vécu la guerre, que ce soit celle de 14 ou la dernière, ils l'ont vécu. Il y en a qui sont morts, il y en a qui ont survécu. C'est comme ça, quoi. La vie est dangereuse et la vie, c'est le seul exercice où on est sûr de ne pas en sortir vivant. Alors une fois qu'on le sait, on fait avec.
Et on peut se nourrir donc de gens comme Pierre Rabhi, effectivement, voilà.
Oui, tout à fait. Moi, j'ai des grands comme ça. J'ai des grandes figures qui m'aident, hein, qui m'aident à vivre, qui m'aident à agir. Rabhi en fait partie. Il y en a d'autres, mais il y en a pas beaucoup. Greta Thunberg, par exemple, qui est une jeune fille que j'admire profondément. Et voilà, quoi. Il faut. Et tout n'est pas négatif, même si le négatif est malheureusement plus important que le positif, mais il faut... Voilà, quand on est un homme, quand on fait partie de l'espèce humaine, quand on réfléchit un peu, on agit comme on croit qu'on doit devoir agir, c'est tout.
Eh bien, merci Jean-Pierre Andrebon. Je rappelle que votre ouvrage « Récit de l'Apocalypse, catastrophe, cataclysme et fin du monde dans la littérature et au cinéma » est disponible aux éditions Vendémiaire. Écoutez Culture Prohibée. Après ces sages paroles de Jean-Pierre Andrebon, je vais me tourner vers un autre personnage très sage, presque un bonze, parce qu'il n'a pas un poil sur le caillou. Je veux bien sûr parler de notre ami Thomas Roland. Thomas Roland qui est venu avec dans sa besace un film mignon, un film japonais de 1953 qui donne envie d'être pro-nucléaire, n'est-ce pas Thomas ?
Oui, un film qui n'arrange pas du tout les affaires d'EDF en ce moment, hein, le film d'Hideo Sekigawa, Hiroshima, qui relate le bombardement d'Hiroshima en 1945, le 6 août 1945, par les Américains. Et c'est un film, effectivement, bon, c'est pas un film fantastique, hein, mais vu que ça relate une histoire vraie, mais quand même, c'est quand même... ça donne un peu une idée de l'enfer sur Terre, en fait. C'est un film qui, effectivement, est plutôt est assez impressionnant et qui remet un peu en perspective des films qu'on peut avoir aimés, c'est-à-dire des films sur la guerre 39-45, réalisés par les États-Unis, produits par les États-Unis, donc réalisés par des réalisateurs américains. Je pense notamment au dernier en date, la Midway de Roland Emmerich, que personnellement, j'aime bien, hein, mais qui donne une image, même si le film est plus nuancé que ça, hein, au niveau entre les Japonais et les Américains, le film est quand même relativement nuancé. Il n'y a pas vraiment de bons et de méchants, hein. Mais c'est quand même un film qui est emphatique, à la gloire quand même, d'une certaine Amérique. Donc ça remet un peu en perspective la façon dont on peut voir ces productions américaines. Parce que le film d'Hideo Sekigawa propose une peinture assez réaliste du bombardement, donc ce qui s'est passé juste après le bombardement, les conséquences humaines, les conséquences donc sur la ville, les conséquences humaines, les blessés, les blessés, les morts, parce qu'il y a eu de nombreux morts aussi, mais aussi les séquelles sur les blessés, l'agonie des gens qui ont survécu au bombardement. On peut vraiment dire qu'il y a quand même des images dignes de Dante Alighieri dans ce film. On a vraiment une impression de voir le dixième cercle de l'enfer, en fait, voilà, qui n'est pas dans les écrits de Dante Alighieri, mais ça, il pouvait pas l'imaginer, ça, Dante Alighieri, à l'époque. Hein, il connaissait pas la bombe A. Hein.
Alors, c'est certainement un film, c'est vrai que c'est pas un film fantastique, mais sur ce qu'est réellement l'apocalypse, en fait. Comme rarement ça a été montré à l'écran avec autant d'acuité. Hein, c'est un film très simple, en fait. Il est produit par le syndicat des professeurs japonais. C'est assez étonnant. Il est fait un an après la fin de l'occupation américaine, quand même. Donc, c'est pas innocent. Et ça démarre dans une salle de classe où il y a un instituteur. D'ailleurs, c'est un peu le fil conducteur, le héros du film, qui découvre que ses élèves subissent encore, ont des contre-coups, hein, parmi les survivants, parce qu'il y a quand même eu quasiment les deux tiers de la population de la ville qui a disparu ou qui a été gravement blessée. C'est énorme, hein, quand même. Hein. Et on voit des gamins qui ont des séquelles terribles, qui ont des leucémies dans les pires des cas, mais qui ont aussi des séquelles terrible. Et d'ailleurs, cet acteur principal, Alain René, va le reprendre dans Hiroshima, mon amour. Donc on peut supposer que le film de Sekigawa a beaucoup marqué Alain René, qui est un qui a repris donc l'acteur principal. Et c'est un film, en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est un film qui débute après la bombe, hein, voilà. Et puis tout à coup, il y a un flashback qui arrive de manière assez abrupte, en fait, où on retrouve des... Parce qu'il n'y a pas de manichéisme, hein. C'est-à-dire que les responsabilités aussi du Japon ne sont pas masquées. C'est assez étonnant, le discours est très intéressant, il n'est pas manichéen, quoi. Et on voit ces généraux japonais qui se pavanent, tout ça, et puis les gens qui sont dans la rue, et puis tout à coup, c'est l'explosion, c'est la bombe. D'ailleurs, on peut faire un lien avec un film dont on va certainement parler, qui est Malville. Où dans Malville, on voit Michel Serrault, qui est le maire d'un petit village, dans sa ferme. Ils sont en train de négocier un truc dans le cadastre avec le pharmacien qui est un peu pleutre. Et puis, ils magouillent, quoi. Ils sont en train de magouiller dans la cave avec des membres du conseil municipal. Et tout à coup, il y a la bombe dehors et ils ne la voient pas. Bon, là, on la voit vraiment, hein. Mais les films sont quand même assez proches sur cet aspect-là. Alors, ce qui est étonnant, après, c'est de voir, pendant trois quarts d'heure, effectivement, la destinée des survivants qui errent comme ça dans la ville et qui sont complètement laminés. Puis rien ne nous est épargné, hein. Les gens qui crachent du sang, la peau qui part en lambeaux, les enfants qui hurlent. Enfin, c'est quand même totalement effrayant. Et à ceux qui, à faire voir quand même à ceux qui restent quand même des fans à hardcore du nucléaire, et également comme tu rappelais, hein, Thomas, fort justement, c'est que par rapport aussi à la manière dont le cinéma américain a réécrit l'histoire, le cinéma japonais après réécrira l'histoire aussi, hein, mais là le film est quand même plus intéressant que par exemple des films contemporains qui flattent un peu au Japon, qui flattent un peu l'aspect nationaliste dans le cinéma japonais d'aujourd'hui. Mais moi, ce que je trouve assez impressionnant, ce film qui était vu comme un film qui devait être un film éducatif, c'est de voir encore l'impact qu'il peut avoir aujourd'hui à sa vision, parce que ces trois quarts d'heure de flashback, c'est quand même vachement éprouvant. Je trouve que c'est très très dur à regarder, même encore aujourd'hui. Et j'ai envie de conclure par ça, mais ça donne envie à ceux qui disent qu'il faut toujours une bonne guerre. Bah là, ça remet les pendules à l'heure, parce que là, on voit clairement que ce qui arrive aux populations civiles, qui eux ne sont pas du tout responsables de cette situation, et au final, c'est eux qui vont en pâtir, et terrible, dans une grande souffrance, une grande détresse. C'est assez terrible. C'est peut-être pas un chef-d'œuvre. Dans l'histoire du cinéma, la mise en scène utilise bien le 4 tiers. Il y a quelques mouvements de caméra quand même très 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 beaux, très intéressants, en particulier quelques zooms très réussis, quelques travelling. Mais ça reste quand même un film assez didactique quelque part. Mais par contre, c'est un film vraiment éprouvant et marquant, quoi, pour les spectateurs.
Par rapport à ce que je disais, par rapport au cinéma américain aussi, c'est que quelque part, toute la propagande qu'on peut avoir américaine par rapport aux récents conflits dans lesquels ils ont été engagés, c'est par rapport à ce discours de guerre propre, de frappe chirurgicale. Et donc là, on voit déjà, bon, même si c'est 1945, c'est pas la guerre du Golfe ou l'Afghanistan, etc., on voit que ces notions-là sont de purs mensonges, parce que je ne comprends pas comment on peut décider d'envoyer une telle arme destructrice sur une population civile, qui, donc, elle, n'a rien fait, en fait.
Ce film, bien que datant de 1953, eh bien, Thomas, quand je t'écoute, quand je nous écoute, je constate qu'il provoque, il atteint son but, parce qu'il provoque chez nous cette réaction que souhaitait le metteur en scène. Nous sommes révoltés par ce que nous voyons, et je pense que c'est important. Alors, est-ce que... Il y en a d'autres qui ont été révoltés par le film suivant dont on va parler. Ce sont les ligues féministes états-uniennes qui, à l'époque, ont manifesté devant les salles qui projetaient ce film de L.Q. Jones, là, qui s'appelle Apocalypse 2024, A Boy and His Dog, voilà, qui se passe donc après l'apocalypse, qui raconte la vie d'un garçon un peu bené, joué par Don Johnson, bené mais doué pour le combat, doué pour la guerre, malin, voilà, qui s'appelle Vic, qui a une relation avec son chien Blaud, avec qui il communique par télépathie. Son chien Blaud qui s'exprime comme Victor Hugo quand il écrit un livre. Hein. Son chien Blaud, il est brillant intellectuellement, voilà. Ce qui est un peu normal parce qu'il est une métaphore de ce qu'était l'humanité avant, quand la culture, le savoir régnait en maître et tout ça, avant l'apocalypse, en fait. Apocalypse qui intervient le début est assez rigolo, après, enfin, rigolo entre guillemets, après une cinquième guerre mondiale qui a duré très peu de temps, tout ça, voilà. L'intro en voix off est assez délirante là-dessus. Mais par contre, on voit bien la destinée, c'est-à-dire qu'il y a un échange de bons procédés entre lui et son chien, c'est-à-dire que lui, il est prêt, il veut à tout prix faire l'amour à des femmes, enfin, faire l'amour, les violer, en fait. Hein, voilà, hein, c'est-à-dire qu'il y a des bandes de pillards, il y a des types étranges qui traînent, et tout le monde a un peu envie de trouver une femme, parce qu'il n'y a presque plus de femmes sur Terre, en fait. Et donc, son chien Blaud l'aide à retrouver des femmes, mais lui, il trouve à manger pour son chien, qui lui, ne veut pas mourir affamé. Et donc, ils vont... le point de départ du film, c'est celui-là. Et puis je n'en dirai pas plus, parce qu'il faut que vous découvriez ce film totalement atypique, dont je comprends qu'il ait pu hérisser le poil aussi de certaines féministes, parce qu'effectivement, le discours peut être ambigu, mais qui reste un film assez brillant dans sa mise en scène. La photo est magnifique, je trouve. Qui décrit quand même un monde, ma foi, assez plausible. Parce qu'on imagine bien que si le monde était livré à la sauvagerie, je donne peu cher des enfants, des femmes et des hommes qui se rêveraient intellectuels, par exemple. Voilà. Là, c'est vraiment un monde quasiment qui a perdu toute trace d'humanité qui nous est décrit. Écoutez Culture Prohibée spéciale Apocalypse au cinéma. Et ce qui me frappe quand même, parce que justement, le fait qu'il rêve de faire l'amour à beaucoup de femmes, parce que bon, bah, il n'y a presque plus de femmes sur Terre, est tourné en dérision dans le film. Le film est beaucoup plus intelligent que ça. Il est adapté d'Arlan Ellison. Il y a même une BD de Richard Corben adaptée de ce bouquin d'Ellison. Et il est signé L.Q. Jones, vieux comparse de Sam Peckinpah. Qui filme tout ça comme un western. Les plans sont assez statiques, c'est assez intéressant. Et puis quand on se retrouve dans le monde souterrain, puisqu'à un moment, il va se retrouver dans un monde souterrain entre guillemets plus civilisé, où justement là, on va tourner en dérision son obsession pour le sexe, puisque ce garçon, on va lui proposer de devenir un procréateur, un peu à l'image de la scène de Calmos, de Bertrand Blier, ça ressemble un peu. Alors lui, il est tout heureux, il dit « je vais coucher avec plein de femmes », et là, paf, on l'attache à un lit, et s'aperçoit que ça va pas être rigolo du tout, et qu'il est face à une société totalitaire, et que justement, c'est grâce à une femme qui va s'en sortir, mais cette femme, il est vrai, elle est intéressée. Donc je pense que le personnage, là, il a ses limites. Mais en même temps, c'est un monde où il faut survivre. Donc lui aurait fait la même chose. Je veux dire, voilà, il l'a utilisé comme elle l'utilise. Donc voilà, donc je pense que le film est plus intelligent que ça. Et puis le film, vraiment, pour moi, réussit esthétiquement. Et je l'avais vu il y a fort longtemps. Et en le revoyant, j'ai été frappé par le fait que c'était un film quand même beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît. On va terminer par un film, là aussi, quand même très subtil, d'un réalisateur oublié qu'on aime beaucoup, nous, dans Culture Prohibée, c'est Christian de Chalonge. C'est l'adaptation d'un livre de Robert Merle, c'est Malville, un film qui date du début des années 80. Mon cher Thomas, je crois que tu aimes beaucoup ce film de Christian de Chalonge.
Et oui, en France aussi, on fait du post-apo. Hein, c'est un film un peu oublié. Christian de Chalonge est d'ailleurs un cinéaste un peu oublié, comme beaucoup de cinéastes français qui ont travaillé dans les années 70-80, qui ont fini à la télévision et dont on a oublié un peu les films. Et Malville, c'est vraiment du post-apo à la française, que j'aime beaucoup. Moi, je trouve qu'il y a quand même un travail assez remarquable sur le cadre, sur la photographie, sur la direction artistique, la vision de ce village dévasté après la bombe. Je trouve qu'il y a un travail vraiment très beau sur les ruines. Je trouve que c'est vraiment un très chouette film. Et surtout, ce que j'apprécie beaucoup, si tu le disais tout à l'heure, c'est qu'ils sont dans une cave, ils sont dans une cave à vin en fait, ils sont 5-6 dans une cave à vin, et c'est là que la bombe tombe. Et en fait, elle est complètement hors champ, nous on voit rien, et c'est que des sons, en fait on voit juste par les interstices de la porte l'éclair de la bombe, et je trouve ça vachement bien, quoi. C'est pas du tout spectaculaire. C'est vraiment traité avec un réalisme exemplaire. Et pendant à peu près 10 minutes, je crois, c'est des sons, c'est-à-dire les vents que suscite la bombe, les différents des craquements, etc. Et aussi les effets qu'a cette bombe dans la cave, c'est-à-dire les bouteilles explosent, les pâtés fondent, etc. Et surtout, les personnages, ils crèvent de chaleur, ils ont soif. Et moi, je trouve ça vachement bien. C'est ce traitement très réaliste de l'explosion de la bombe. Ensuite, bon, c'est une question de survie. Et ce que je trouve très bien aussi dans le film, c'est que pendant une bonne partie du film, les personnages sont sales, quoi. Et d'ailleurs, un personnage de vieille qui doit être la mère de Michel Serrault dans le film, qui leur dit régulièrement « Allez, vous lavez, vous puez. » Mais seulement, ils ne peuvent pas se laver parce qu'ils ne savent pas si l'eau est contaminée ou pas. Voilà. Donc, pendant une bonne partie du film, ils ont leurs vêtements qu'ils avaient pendant l'explosion. Donc, ils se sont roulés par terre dans la terre parce qu'ils ne pouvaient plus tenir debout. Donc, ils sont sales pendant une bonne partie du film. Ils ont de la crasse sur le visage, ils ont de la crasse sur les vêtements. Et moi, je trouve que c'est vachement bien de ce côté-là. Après, le film, tout en respectant ce côté réaliste, pas du tout spectaculaire, il y a ce petit côté western. Donc on est vraiment dans un traitement de film post-apocalyptique à la française, qui se démarque complètement de ce qu'on a pu voir en Australie ou en Italie. Et moi, je trouve que le film c'est dommage qu'il soit oublié, parce que je trouve que c'est un grand film.
Tu parles de ce traitement western. C'est vrai que moi, ce que j'aime, comme tu dis, c'est que c'est un film français. Donc, c'est traité, voilà. Si ça se passe en France, dans la campagne profonde, l'apocalypse ressemblera à ça. On peut effectivement imaginer très bien que l'apocalypse ressemblera à ça et pas à Mad Max. Voilà. Ni à ce qui se passerait aux États-Unis. Pour faire un parallèle avec Apocalypse 2024, en plus, on voit très bien, parce qu'il y a une communauté qui vit dans un tunnel qui est beaucoup moins open que la communauté dirigée par Michel Serrault, même si Serrault sait prendre des décisions. Il rigole pas. Quand il faut tuer aussi. Hein. Il rigole pas non plus pour protéger leur récolte, tout ça. Enfin bon, voilà. Mais ils sont sous le joug d'un trintignant, toujours impeccable, évidemment, cette communauté qui vit dans le tunnel. Et là, les femmes sont aussi des objets sexuels qui sont violés. Et tous les personnages qui sont, contre l'intérêt général, en tout cas tel que proclamé par Trintignant, sont mis dans une prison. En fait, ils sont enfermés dans une pièce du train, quoi. Voilà, ils vivent tous dans des wagons, hein, d'un train qui est coincé sous un tunnel. On peut imaginer que ces survivants, en fait, étaient dans un train qui passait sous le tunnel au moment de l'explosion, et que comme ça a coupé le courant, tout ça et tout, ils se sont retrouvés là, coincés sous terre, et c'est ce qui les a protégés. Et puis, il y a toutes ces images aussi de poussière comme ça qui tombe, comme on voit d'ailleurs dans le film Hiroshima, dont on a parlé avant, de Sekigawa, qui sont effectivement là aussi très impressionnantes et très réalistes. Moi, je trouve que c'est un très bon film. Bon, de toute façon, je trouve que De Chalonge a fait quasiment que des très bons films, que ce soit Les 40e Rugissant, L'Argent des Autres, qui a été récompensé de plusieurs Césars, que ce soit L'Alliance avec Anna Karina, que ce soit le Docteur Petiot, là aussi avec Serrault en tueur implacable. Enfin bon, voilà, très très bon, toujours très bon de Chalonge. Et il a effectivement un certain sens du rythme, du cadre, de l'esthétique. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce film. Je mettrais juste un petit bémol sur la fin, que je trouve un peu étrange. Je la raconterai pas. Je veux dire que je la trouve un peu étrange. Voilà, on va pas dévoiler. Si vous n'avez pas vu ce film, vu que c'est un film oublié, on espère qu'il va ressortir dans une superbe édition. Par exemple, on va lancer une bouteille à la mer comme ça, éditeur. Et si vous nous écoutez, peut-être que Malville de Christian De Chalonge pourrait rencontrer son public par le biais d'une belle édition Blu-ray, voilà, qui viendrait enchanter nos lecteurs de salon. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, graphite.net. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée est disponible en balado diffusion sur différentes plateformes. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Thomas Roland, dit le loup-garou Picard and the Last, but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine. Más peces sellándose, sin agua, flores en